Que le Seigneur soit béni. Oui, le repos céleste, quelle grâce. C'est presque incroyable aujourd'hui que l'on puisse parler de ces choses. Nous allons donc ce soir voir quelque chose qui pour moi est indispensable. Beaucoup de croyants ne sont pas convertis. Beaucoup de croyants ne sont pas passés par la nouvelle naissance parce qu'ils ne sont pas devenus des disciples. Alors on va lire des textes et je vous assure que c'est vrai. Je pourrais vous donner des témoignages nombreux de croyants qui ne sont jamais passés par la nouvelle naissance et qui en vérité n'ont jamais reçu Jésus-Christ dans leur cœur. Alors on va lire un texte dans Marc au chapitre 9. Marc chapitre 9, verset 32. On va lire à partir du verset 30. Marc 9, verset 30. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache. Car il enseignait ses disciples, et il leur dit, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, et ils craignaient de l'interroger. Plus loin, dans l'évangile de Marc, toujours chapitre 10, au verset 32, « En plus, ils sont au centre de la volonté de Dieu. » C'est un cantique qui est parti, c'est un texte qui est particulier, car là, vraiment, ils sont au centre de la volonté de Dieu. Marc, chapitre, ils ont toujours été, mais là, c'est vraiment le centre. Marc, chapitre 10, verset 32, ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem. Donc, ils partaient, Jésus partait avec ses disciples pour aller au calvaire. Et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Qu'est-ce que Jésus a fait? Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui. Retenez bien cette expression. Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem et il parle de sa mort, de sa crucifixion et de sa résurrection. Dans le texte qu'on vient de voir avant, c'était la même chose. Il ne le comprenait pas. Il ne comprenait pas le calvaire. Et là, Jésus, pourtant ils sont au centre de la volonté de Dieu, Jésus est devant, ils marchent, eux le suivent, ils sont là dans le trouble, dans la crainte, ils ne comprennent pas la croix. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont exactement dans le même cas de figure. Ils suivent Jésus, ils aiment Jésus, mais leur cœur est dans la crainte, ils sont troublés, et je crois qu'il faudrait que nous vivions la même expérience, pleine de douceur. Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui. Voilà ce que nous avons besoin, de nous retrouver auprès de Jésus et de comprendre ce que c'est vraiment un disciple. C'est vrai qu'on ne comprend pas tout de suite. Même Jésus a dit à Pierre, lorsqu'il leur a lavé les pieds, « Ce que tu ne comprends pas maintenant, tu le comprendras plus tard. » Il y a des choses qu'on ne comprend pas de suite, parce que la révélation, elle est progressive. Et même si vous faites des progrès, dans 5 ans, vous en ferez d'autres. Et même si vous avez fait d'énormes progrès, dans 20 ans, vous en ferez d'autres. Les progrès sont progressifs, et heureusement. Alors des textes comme celui-ci, on pourrait en prendre un autre dans Matthieu, voyez. Il y a beaucoup de textes qui nous parlent de cette affaire, où les disciples, pourtant, c'est des hommes qui allaient être utilisés pour changer le monde. Mais ça nous encourage en même temps, voyez. Matthieu chapitre 13, verset 2. Voyez, au verset 2, une grande foule s'assemble. Voyez, Jésus était là, une grande foule s'assemble, et il donne une parabole. Voyez, Matthieu 13, verset 2. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque, voilà, et il leur donne une parabole. Il donne la parabole, et regardez au verset 10 ce qui se passe. Au verset 10, les disciples, voyez, il y avait la grande foule, mais il n'y en a qu'une catégorie, les disciples, dont 12, s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Vous voyez, il y avait toute une foule et pourtant il n'y a qu'un groupe qui s'est approché de Jésus. « Explique-nous. » Et Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Donc, un texte de plus qui nous prouve que le Seigneur parle et que quand Dieu parle, il y a des gens qui ne sont pas du tout intéressés par les explications et que là on voit des disciples, ils s'approchent de Jésus. Pourquoi parles-tu en parabole? Explique-nous. Et Jésus va leur expliquer la parabole.
Beaucoup de chrétiens, ils disent « Oh, moi, j'y comprends rien. » Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je crois qu'un véritable chrétien, il a le souci de rendre un bon témoignage. Est-ce que c'est important pour vous de rendre un bon témoignage? Ou est-ce que vous faites partie de ces gens qui disent « Moi, ce que les autres pensent, je m'en fiche. » Vous faites partie de, si vous faites partie de ces gens-là, vous pouvez remettre votre conversion en question. Je pense que quand on est chrétien, on a le souci de rendre un bon témoignage auprès des gens. Oui ou non? Et si vous dites « Moi, les autres, je m'en fiche pour pas employer d'autres mots », je vous assure, vous n'allez pas bien. Un chrétien, il a le souci. Alors, si la Bible nous demande de veiller les uns sur les autres, bien sûr que si les gens disent des âneries, ça, c'est pas grave. Si les gens ils disent des mensonges sur vous, écoutez-moi ça, je m'en fiche, d'accord. Mais je pense que c'est important de veiller les uns sur les autres. Un chrétien, Jésus a dit, vous êtes mes témoins. Il n'a pas dit, vous êtes des convertisseurs. Vous êtes mes témoins. Donc, vous avez la responsabilité de rendre un grand témoignage. La vérité, ce n'est pas que la doctrine. La doctrine a pour but de nous amener à Jésus-Christ. La doctrine, si elle est qu'intellectuelle, si elle est que théologique, ça ne sert à rien, c'est un exposé, ça n'amène pas la vie. Lorsqu'on parle de doctrine, nous, dans le sens où on va en parler ce soir, c'est dans le but de connaître davantage le Seigneur Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas juste pour dire, moi je connais la doctrine, je peux vous donner tous les textes sur le disciple. Moi je peux vous le faire. Mais ce n'est pas pour ça que ça va amener la vie dans l'Église. Ça amènera la vie dans l'Église si véritablement je comprends ce que c'est un disciple. Qu'est-ce que c'est un disciple? Puisque Jésus a dit, faites des disciples. Il n'a pas dit, faites des protestants, faites des baptistes ou des pentecôtistes. Faites des disciples. Il y a plein de protestants qui ne sont pas des disciples. Il y a plein de pentecôtistes qui ne sont pas des disciples. Et ils se gargarisent de connaître la doctrine. Mais je le répète, ce n'est pas une question de connaître la doctrine. Il faut la doctrine. Il faut qu'il y ait une saine doctrine. Et une église qui n'est pas basée sur la saine doctrine n'est pas approuvée de Dieu. Ça, c'est certain. Mais parce qu'il ne faut pas aller, il faut respecter ce qui est écrit. Et ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Est-ce que c'est écrit, ça? De ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Oui, il est dit que celui qui ajoutera ou celui qui retranchera sa parole, Dieu lui retranchera sa part dans la vie, dans l'arbre de vie. Nous ne rendons pas compte à quel point il faut pas aller. Regardez, on peut prendre un texte, c'est dans 1 Jean, je crois. C'est dans 1 Jean. Il y a plein de textes comme ça qui nous montrent l'importance de la doctrine. Mais ce n'est pas que la doctrine. Ce qui est important, c'est que la doctrine nous amène à Jésus. La vérité, ce n'est pas que la doctrine. La vérité, c'est le Seigneur. Vous êtes d'accord? Non? Bon. Regardez, deuxième épître de Jean, verset 9. Comment? C'est bien. Oui, je m'étais pas trompé. Merci. Deuxième épître de Jean, verset 9. C'est sérieux cette affaire. Un chrétien, il respecte la doctrine. Voilà à quoi on reconnaît un véritable chrétien. Regardez bien. Quiconque va plus loin, vous y êtes? Deuxième épître de Jean, verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, regardez-le, c'est grave, hein? N'a point Dieu. Vous c'est sévère ou c'est pas sévère? C'est sévère, hein? Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père, il a le Fils. Donc vous voyez, quand on va beaucoup plus... Moi j'entends souvent plein de trucs. C'est pas écrit dans la Bible, moi je l'accepte pas. Alors ça fait, c'est quoi? C'est légaliste? C'est quoi? C'est... Eh bien c'est sérieux. C'est pas écrit. J'ai entendu quelqu'un, moi, qui justifiait des expériences en disant, vous savez, quand il est dit que ce que Jésus a fait, il est impossible qu'on puisse l'écrire tellement il en a fait. Et quelqu'un dit, oui, mais c'est les expériences qui ne sont pas écrites dans la Bible. Vous vous rendez compte comment les gens sont tordus? Celui qui va plus loin ne connaît pas Dieu. Ça vous choque ce verset ou ça ne vous choque pas? Alors, on va prendre un texte. Regardez, c'est important, mes frères et sœurs. Parce que vous voulez une belle église, vous aurez des les jeunes là, vous aurez des enfants. Est-ce que vous voulez donner à vos enfants une belle église? Non, écoutez-moi, les jeunes en général. Vous qui avez des enfants ou des petits-enfants, est-ce que vous voulez, si Jésus tarde, donner une belle église à vos enfants? Bon, eh bien si on veut donner une belle église à nos enfants, une belle église aujourd'hui et demain, il faut une église qui respecte la doctrine. C'est tout. Celui qui va plus loin, il ne connaît pas Dieu. Il faut être sérieux, mes frères et sœurs. Et c'est ça, un chrétien, il respecte la parole. Dieu l'a dit, on n'ajoute rien, on n'enlève rien. C'est important, mes frères et sœurs. Mais je répète, je parle de la doctrine, mais en vérité, ce n'est pas la doctrine qui me préoccupe le plus. Ce qui me préoccupe, c'est que la doctrine nous amène à la vie, à la véritable vie spirituelle. Donc Jean chapitre 8, verset 31. Je ne pense pas qu'on aura le temps de tout voir ce soir. Ce n'est pas grave, on va faire les choses progressivement. Jean chapitre 8, verset 31. C'est quoi un disciple? Puisque Jésus a dit, faites des disciples. Jean chapitre 8, verset 31. Vous remarquerez qu'au verset 30, il est dit que quand il parlait de choses assez c'était assez neutre, quoique ce soit profond. Comme Jésus parlait, plusieurs crurent en lui. C'est magnifique, hein? Est-ce que c'est bien? Mais regardez à la fin. Avant de lire le verset qui nous intéresse. Verset 59. Vous y êtes? Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Vous avez vu? Au fur et à mesure que la vérité leur était annoncée, ils n'ont pas trop accepté. Alors, verset 31. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Amen. Donc, premier point, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Verset 47, regardez. « Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Et pourtant, croyez-moi, c'était des pharisiens qui prêchaient la loi. Les cinq premiers livres de la Bible, ils les connaissaient par cœur, mais je peux vous dire qu'ils rejetaient Jésus-Christ. Demeurer dans la vérité, être honnête par rapport à ce que Dieu dit. Si Dieu l'a dit, c'est important. La Bible dit que celui qui porte du fruit, c'est celui qui écoute la parole avec un cœur honnête et bon. Toujours au bénéfice de la vérité. Je ne sais pas comment vous lisez la Bible. Vous lisez la Bible pour la juger ou c'est la parole de Dieu qui juge votre cœur ? De quelle catégorie de chrétien êtes-vous? Vous jugez la Bible ou c'est la parole de Dieu qui vous juge? C'est toute la différence. On n'est pas là pour nous. On n'est certainement pas habilité pour juger la parole de Dieu. Par contre, elle peut évaluer notre cœur et nous montrer vraiment dans quel état de cœur on est. Mais moi, je l'entends souvent. Et des gens qui sont soi-disant enracinés, ils ne connaissent pas la Bible. Si vous êtes des disciples, vous gardez la parole de Dieu. Voilà, c'est merveilleux, c'est une expérience extraordinaire, extrêmement rassurante, vous lui faites confiance. Toute l'écriture est inspirée. Vous le croyez ça? Toute l'écriture est inspirée. Du premier verset de la Genèse au dernier verset de l'Apocalypse, tout ce qui a été écrit est reconnu dans le canon des Écritures et est une parole inspirée. C'est une question d'honnêteté, d'aimer la vérité. Parce que la vérité, lorsqu'elle est vécue, c'est pour ça que je me suis appliqué à dire que la doctrine, elle doit amener la vie. La doctrine, elle doit amener la vérité. Mais qui c'est la vérité? C'est la doctrine ou c'est Jésus la vérité? C'est Jésus, bien sûr. Et quand il est dit, par exemple, voyez, dans Jacques, ce sont des textes importants. Moi, des fois, je me suis posé la question, pourquoi il y a tant de chrétiens qui sont tristes? Eh bien, regardez, c'est simple. Alors, c'est sûr qu'il y a des moments où on peut avoir... Est-ce qu'on a droit à 5 minutes de cafard? Est-ce que ça peut arriver? Mais bien sûr. Mais je fais quand même la différence entre 5 minutes de cafard et être continuellement dans la désobéissance et dans le péché. Regardez dans Jacques. Il y a un respect profond des choses de Dieu. Si je cherche là, ça n'ira pas. Jacques chapitre 1er, regardez, verset 22. C'est une question d'honnêteté profonde. Vous voulez être libre ? Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Vous voyez, le problème, mon frère, c'est que les gens, ils écoutent la parole de Dieu, ils s'imaginent que parce qu'ils écoutent et qu'ils sont d'accord, c'est réglé. Il ne faut pas écouter et être d'accord. Il faut écouter, être d'accord et obéir. Joyeusement. C'est ce que dit la suite. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, vous avez vu, c'est une loi de liberté, et qui aura persévéré, mais se mettant à l'œuvre. Vous voyez qu'il y a un travail pour vivre ce que l'on a écouté, partagé, entendu. Celui-là sera heureux dans son activité. Alléluia. Mes frères et sœurs, est-ce que quand même, on est intéressé, il faut dire la vérité, est-ce que c'est intéressant d'être heureux? Mais quand même, et c'est la volonté de Dieu. Combien de fois, tout à l'heure je priais, et j'avais ce verset qui m'est revenu à l'esprit, « Heureux l'homme qui m'écoute, qui se tient chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux, celui qui m'écoute a trouvé la vie. » Il n'a pas trouvé la doctrine. Celui qui écoute la doctrine et qui la vit, il a trouvé la vie. Et c'est ça le problème de nos églises, c'est que les gens se contentent de la doctrine. Et moi le premier, combien je suis soucieux de ne rien ajouter. Et si vous me voyez un jour ajouter ou retrancher quelque chose, vous pouvez me reprendre. Sans problème, vous me rendrez service. Mais la vie, elle n'est pas là. La vie, elle est dans cette grâce de dire, mais tu me parles de me plonger dans la loi de la liberté. On a chanté « Quel repos ». Quel repos céleste! Est-ce que vous vous rendez compte? La bénédiction dans un monde complètement malade et qui va être encore plus malade. On ne veut pas de Dieu. Il y aura de plus en plus de plaies, comme en Égypte, où il y a eu des plaies, jusqu'à ce que le peuple d'Israël sorte, jusqu'à ce que l'Église soit enlevée, il y aura des plaies. Pourquoi? Parce que les gens, ils rejettent le Seigneur et ils rejettent l'Église. Et nous ne nous accaparons pas de ces choses, nous nous intéressons à rendre un bon témoignage. Seigneur, tu veux que je sois un disciple? Eh bien, je vais être un disciple. Je vais rester dans ta parole. Je vais aimer ta parole. À la fin des temps, ce qui caractérisera beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Vous connaissez ce texte dans 2 Thessaloniciens? Moi, je vous avoue que quand je me suis converti, j'ai dévoré la Bible. Et dans le Nouveau Testament, un des textes qui m'a le plus choqué, je dis bien choqué, c'est celui-ci qu'on va lire dans 2 Thessaloniciens. Il m'a choqué ce texte. Je me suis dit, c'est pas possible. Je me suis dit, mais je comprenais pas. Maintenant, je comprends très bien. C'est quelque chose que je ne comprenais pas. C'est lié à l'apostasie. J'arrivais pas, moi. Je comprenais pas les contextes, tout ça. C'est lié à l'apostasie de la fin des temps, dans laquelle nous sommes. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. C'est quelque chose qui m'a profondément choqué quand je me suis converti. Bien sûr, j'avais un mois de conversion. Je pouvais pas comprendre comme je comprends aujourd'hui. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Il est parlé de l'apparition de Satan, qui viendra de plus en plus, qui va s'imposer de plus en plus. Bon, ça c'est un autre sujet. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux, regardez bien, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Vous avez vu? Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, et là le verdict est terrible, ils seront condamnés. Donc voyez bien qu'on peut perdre le salut. Et pourquoi? Il n'y a pas l'amour de la vérité. Mais vous devez être capable de répondre, est-ce que vous aimez la vérité? Est-ce que vous voulez vraiment? D'autant plus que je le répète, il y a la doctrine, mais la doctrine, ça nous conduit à la victoire avec Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez dire, oui, je veux la vérité. Quelle qu'elle soit, je veux entendre la vérité. J'aime la vérité. Il y a ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Moi, dans le mouvement, il y a 20 ans, on n'entendait jamais ça. Qu'un chrétien ne pouvait pas perdre le salut. Aujourd'hui, on entend qu'un chrétien ne peut pas perdre le salut. Moi, je peux vous dire que les chrétiens, ils peuvent perdre le salut. Et ça, c'est des gens qui n'ont pas l'amour de la vérité. Un disciple, il garde la parole. Ils ont préféré le mensonge à la vérité. Vous aimez la vérité? Toujours la vérité? Qu'on vous dise la vérité? Si vous étiez orgueilleux, imaginons, et qu'on vienne vous dire, tu es un orgueilleux. Et toi, tu t'es regardé? C'est ça que... Non mais... Au cas où. Mais... Est-ce que vous accepteriez, si c'est vrai, qu'est-ce que vous diriez? Tiens, si on dit, écoute, tu sais, vraiment, moi, je trouve que tu as de l'orgueil. Mais qu'est-ce que vous répondriez? Vous prendriez une grande respiration. Non, mais sérieux. Si on dévoile un défaut, comment vous l'acceptez? Ça fait mal. Il faut digérer. Moi, je dis que quand on vous dit un truc, il faut quelques jours, des fois. Il y a la boule ici, là. Ça, vous connaissez? C'est normal, pendant 2 ou 3 jours. Ouais, tu m'énerves. D'accord? Moi, j'ai qu'au début, quand ma femme me disait quelque chose, pendant 1 jour ou 2, j'avais la boule au ventre. Ça m'énervait, surtout quand je voyais qu'elle avait raison, ça m'énervait encore plus. Vous voyez comment j'ai... Non, mais... Et puis, je me suis dit que t'es bête. Quand quelqu'un qui t'aime... Parce que quand même, le Seigneur, il nous aime. Mais les gens qui sont à côté de nous, ils nous aiment. Moi, je me souviens, ça, ici, j'avais critiqué les églises. Parce qu'on peut parler, on peut dénoncer des choses. Il y a la façon de le dire. Et je sais qu'il y a 3 personnes dans l'église, entre autres ma femme, qui m'a dit, mais dans la même semaine, mais pourquoi tu parles mal des églises? À quoi ça sert? Et puis, il y a un frère qui est venu, et un autre, qui m'ont dit pareil. Qu'est-ce que j'ai fait d'après vous? Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, le dimanche, j'ai demandé pardon à l'église. J'ai dit, je vous demande pardon. Parce que quand même, moi, je trouve que c'est beau quand des gens viennent vous dire ce qu'ils pensent. Si c'est vrai, si c'est pas vrai, tant pis. Mais si c'est vrai. L'amour de la vérité. Nous devons apprendre à aimer la vérité. Un disciple, il veut entendre la vérité. Qu'elle soit bonne ou qu'elle soit difficile, c'est pas grave. Mais entendre la vérité. L'Esprit de Dieu est un esprit de vérité. Il nous conduit dans la vérité. C'est Paul qui dit aux Galates, mais qui vous a empêché d'obéir à la vérité? Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Je rappelle, il y a la doctrine, mais la doctrine nous conduit toujours à Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est Paul qui dit, mais nos âmes sont purifiées en obéissant à la vérité. 1 Jean 3, 18, 19, ne le cherchez pas. Petits enfants, n'aimez pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Voilà. Et là, c'est Pierre, Jean-Pierre qui dit, par là nous connaissons que nous sommes de la vérité. Nous aimons la vérité. Un disciple, c'est pas quelqu'un qui connaît les choses, c'est quelqu'un qui obéit. Dieu m'a montré ça, voilà, le mensonge, eh bien, je ne mens plus. Je ne mens plus. Qu'est-ce que vous pensez, vous, d'un... Ma femme, elle était à l'école le dimanche une fois, je vous l'ai dit, mais ça fait rien, je le redis. Et il y a une enfant qui a dit, il parlait de mensonge, et il y a une enfant, une petite, qui a dit à Isabelle, comment je fais, moi, quand ma maman me dit, quand le téléphone sonne, elle me dit de répondre et de dire que je ne suis pas là. Et oui, mais lui dit, mais tu sais, si ta maman n'est pas chrétienne, je comprends. Et la petite a dit, mais si, ma maman, elle est chrétienne, elle est à l'église tous les dimanches ici, dans cette assemblée. Qu'est-ce que vous... Franchement, elle me dit, il ne faut pas juger. Mais Jésus a dit quand même... Ne jugez pas selon les apparences, mais jugez selon la justice. Oui ou non? Est-ce qu'un pasteur, des anciens dans une église, ont le droit de juger le péché des gens? Est-ce qu'ils ont le droit? Ben oui, c'est écrit. Et la Bible dit, ne jugez pas les gens du dehors, jugez ceux du dedans. Qu'est-ce que vous pensez de cette personne qui dit à sa fille, si c'est quelqu'un, dis-tu que je ne suis pas là? Est-ce que vous vous rendez compte? Pour moi, cette personne n'est pas convertie. Parce que quand on ment, moi, il me semble qu'on devrait avoir une conviction de péché, si le Saint-Esprit habite en nous. Et puis après, on dit, voilà, mais bon, je ne sais pas, moi. Imaginons un moment de faiblesse et tout. Et bien après, on va dire, mais je te demande pardon. J'ai dit ça, je te demande pardon. On va la rappeler et lui dire que j'étais là. C'est pas ça le témoignage. Et je crois qu'un chrétien, il doit avoir du courage. Il doit avoir dit, voilà, moi j'aime la vérité, je marcherai dans la vérité. Alléluia. Je veux être un disciple. Mes frères et sœurs, nous voulons voir la gloire de Dieu dans l'église? Vous voulez voir la gloire de Dieu dans Toulouse, dans nos familles? Eh bien, faisons des disciples. Soyons des disciples. Et si nous avons péché, eh bien, demandons pardon. Est-ce que ça peut arriver de commettre une erreur? Bien sûr. Eh bien, je la répare. Oui, je t'ai menti, je te demande pardon. Je te demande pardon. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. Je l'ai fait plusieurs fois. La première fois, ça m'a coûté. Puis je me suis dit, non, je ne veux pas m'éloigner du Seigneur. Ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, ils aiment le mensonge. Si vous n'aimez pas la vérité, vous finirez par aimer le mensonge. Et je n'ai jamais vu, moi, quelqu'un d'heureux qui vivait dans le mensonge. On est heureux quand on vit dans la vérité. C'est clair, ça ne peut pas être plus compliqué. Le deuxième exemple du caractère du disciple, c'est Jean chapitre 13. On pourrait parler longtemps de ce sujet, mais je pense que ça suffit. Jean chapitre 13. C'est important, frères et sœurs, vous savez, la bénédiction de l'Église, la bénédiction de nos familles est liée à cela. Parce que quand même, si une Église est bénie, comme je l'ai dit l'autre jour, c'est que les familles sont bénies. Et il faut qu'on soit bénis à la maison. Le témoignage, ce n'est pas à l'Église. Bien sûr que c'est à l'Église, mais c'est facile à l'Église. Mais est-ce qu'à la maison, je vis dans la vérité? Jean chapitre 13, verset 34. Jean 13, 34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, donc à l'amour que nous aurons, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc, comme on avait vu l'autre jour quand on a fait la réunion sur les conjoints, l'amour... L'amour que nous avons, l'amour humain, qui est bien. Il faut pas mélanger tout. Il y a ce qui est humain. Est-ce que c'est bien d'être humain? Bon. Est-ce que c'est bien d'être charnel? Est-ce que c'est normal d'être humain? Vous voyez, comment les gens confondent tout. Il y a ce qui est humain. Il y a un amour humain, il y a un amour sentimental, etc. Mais le Seigneur, il nous demande d'aimer avec son amour. D'ailleurs, lisez-le un peu plus loin, dans Jean au chapitre 17, c'est là que beaucoup de chrétiennes sont en défaut. Regardez ce verset 26, c'est des versets qui devraient nous arrêter. C'est pour ça qu'il faut plonger ses regards dans la loi, s'arrêter sur un verset. Moi, ça m'arrive des fois de rester sur un verset, mais une semaine, je ne lis pas que ce verset, mais je veux savoir ce que ça veut dire. Jean 17, 26, « Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, en parlant de nous, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. » Donc, on voit bien que l'amour que Dieu nous demande d'avoir, ce n'est pas le nôtre, c'est le sien. Vous êtes d'accord avec moi? Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Donc, on peut recevoir un amour qui ne vient pas de nous, un amour qui vient du Seigneur. Gloire à Dieu. Seigneur, je veux cet amour. Remplis-moi de ton amour. Donne-moi d'aimer comme tu aimes. Parce que c'est une des conditions sine qua non pour être un véritable disciple. Bien sûr que c'est facile d'aimer. Il y a des gens, c'est facile de les aimer. Oui ou non? Allez, soyons sérieux. Est-ce qu'il y a des gens pour qui c'est facile d'aimer? Oui? Est-ce qu'il y a des gens, c'est plus difficile? Ben oui, il faut être honnête. Moi, je vois quand je pense à mes petits-enfants, moi, par exemple, c'est archi facile de les aimer. Franchement. Je me rappelle, je vous le dis parce que j'avais un sucrier qui m'avait offert un très, 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 très beau sucrier. Vraiment. Et je ne le sortais pas souvent pour pas qu'on le touche, pour pas qu'on l'abîme. Et il y a 2 ou 3 ans de ça, on allait prier, justement. On était tous ensemble. Et ma petite fille, j'ai dit, allez, va sur les genoux de mamie. Et en allant sur les genoux de mamie, paf, elle a fait tomber le sucrier. Et elle l'a cassé à 1000 morceaux. C'est pas grave, ma chérie. C'est pas grave. Mais c'est là que je me suis rendu compte, une fois de plus, que il y a des gens, c'est plus facile que d'autres. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui ou non? Mais j'aurais pas tué entièrement. Je suis pas un meurtrier, quand même. Mais de quelle façon nous avons choisi d'aimer? Tiens, on est sous le regard du Seigneur. Bien sûr qu'on a le droit de se réjouir et on a le droit de partager certaines choses. Et on veut faire des progrès. Pourquoi on est là? Pour faire des progrès, pour se remettre en question. Mais quel amour j'ai choisi de porter aux autres? Bon, c'est vrai, par exemple, mon conjoint, vous êtes marié? Quel amour je vais porter à mon conjoint? Est-ce qu'on peut mépriser son conjoint? Est-ce qu'on peut décider de ne pas aimer sa femme ou son mari? Et bien sûr. Bien sûr, il y a des gens qui se subissent l'un l'autre. Et il y a des gens, pourquoi il y a des gens qui aiment leur conjoint et d'autres dans une indifférence? Pourquoi? Parce que c'est des choix. Comment j'ai choisi d'aimer mes parents? Comment j'ai choisi d'aimer mes enfants, mes dirigeants, mon pasteur, tiens. Vous avez un pasteur? Est-ce que vous avez choisi de l'aimer? Vous avez choisi de l'aimer? Alors vous priez pour moi. Oui ou non? Vous priez pour moi? Si vous ne priez pas pour moi, c'est que vous ne m'aimez pas. C'est clair. Je le pense. Donc je saurai davantage plus tard. Les patrons. Est-ce que vous aimez votre patron? Vos ennemis. Moi, ça me rassure quand je vois aimer vos ennemis. Pourquoi? Parce que ça veut dire, il n'est pas écrit, c'est pas normal que vous ayez des ennemis. Ça prouve bien qu'on peut avoir des ennemis. Les gens qui sont dans les ténèbres, qui nous rejettent parce qu'on est chrétien, ça crée inévitablement un combat. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens qui ne nous aiment pas parce qu'on est chrétien. Oui ou non? Il y a des gens qui ne nous parlent plus parce qu'on est chrétien, etc., etc. Ça devient, à cause du combat entre la lumière et les ténèbres, qu'on le veuille ou non, ça devient des ennemis. Eh bien, le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous dit? Aimez vos ennemis. On ne peut pas avec notre amour humain. Mais est-ce que Dieu peut nous donner de l'amour pour un ennemi? Moi, j'en suis sûr. Moi, j'en suis certain, parce que je l'ai vécu. Et je suis sûr qu'on peut dire, Seigneur, je veux que tu me donnes de l'amour pour ces gens qui m'ont fait du mal. J'avais lu le témoignage de Corrie Ten Boom. Vous savez, Corrie Ten Boom, c'est une femme, toute sa famille, une juive, toute sa famille a été exterminée dans les camps de concentration. Toute sa famille. Elle s'en est sortie, elle avait 16 ans ou 17 ans, maigre comme un clou, mais elle s'en est sortie. Elle est devenue, elle s'est convertie. Dans les camps d'Auschwitz, elle s'est convertie et elle a fait des conférences sur la vie avec Dieu, le pardon et tout, la vie avec Dieu. Et un jour, qu'est-ce qu'elle voit arriver à une de ces conférences? Le bourreau qui avait brûlé, enfin calciné toute sa famille. Cet homme s'était converti et il est venu lui a tendu la main. Et il ne savait pas que, bien sûr, que c'était Corrie Ten Boom. Et elle a dit qu'elle a hésité longtemps. Et Dieu lui a dit qu'il faut aimer tes ennemis. Et quand elle a pris la main de cet homme pour la lui serrer, elle a été envahie d'amour pour lui. Enfin, quand vous le lisez, ça fait chaud au cœur, vraiment. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Donner de l'amour pour un homme qui a détruit toute votre famille. Et moi, je crois qu'on peut aimer de l'amour du Seigneur. On peut recevoir de l'amour. Parce que nous ne jouons pas les beaux, nous ne jouons pas les malins. N'essayons pas de faire « moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime ». Oui, bien sûr. Mais je crois qu'on a tous le même Seigneur. On a un grand Dieu capable de nous donner de l'amour. Seigneur, donne-moi d'aimer. J'aime, bien sûr, mes petits-enfants. Je n'ai pas besoin de demander à Dieu de l'amour pour aimer mes petits-enfants. Ou pour mon épouse, ou pour mes enfants. Mais c'est vrai. Demandons au Seigneur. Demandons au Seigneur. Peut-être qu'au travail, il y a des gens, c'est pas facile. Moi, je vous avoue, il y avait un gars avec qui je termine avec ce témoignage parce que je n'ai pas le temps de tout faire. Il y avait un gars au travail, il m'énervait. Je sais que vous savez pas ce que c'est, mais il m'énervait. Il était pénible. Il m'irritait. J'avais vraiment envie de, vous savez, de me déconvertir 5 minutes. C'est pas bien. J'étais jeune converti. Et un soir, je me rappelle à la maison. J'ai dit, c'est pas possible. Tu vas à l'église et il m'énervait. Je me suis mis à genoux, je me rappelle, dans ma chambre. Et Seigneur, je te demande de me donner de l'amour pour cet homme. Et je vous assure, le lendemain, quand je l'ai vu, quand j'ai serré la main, j'étais envahi d'amour pour ce garçon. Mais vous voyez, ça fait 33 ans que je suis parti, je prie encore pour lui. Je dis au Seigneur, s'il est vivant, je te prie encore pour lui. Mais pourquoi? Parce que je crois qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et en tous les cas, c'est pas bénin ce que je vous dis, c'est sérieux. Quand même, le Seigneur, il dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que le monde saura que vous êtes mes disciples. Nous, des fois, on fait de l'évangélisation, ça, l'évangélisation. Mais moi, je suis pour, attention. Mais je crois que la meilleure évangélisation, c'est quand on s'aime les uns les autres et qu'on décide de s'aimer. Et en plus, j'en ai parlé l'autre jour à la réunion sur les couples, le Seigneur parle de l'amour. Non pas comme d'un sentiment. Le Seigneur parle de l'amour comme d'un commandement. C'est bien la preuve. Alors bien sûr, comme j'ai dit, moi j'aime pas sur commande. Écoutez-moi bien. Si le Seigneur en parle d'un commandement, c'est quelque chose qu'on peut faire. Tu me demandes d'aimer, eh bien, je choisis d'aimer. Seigneur, j'ai du mal. Eh bien, je suis honnête. J'ai du mal. Seigneur, donne-moi ton amour. Et croyez-moi, il vous le donnera. S'il ne vous le donne pas, c'est parce que vous ne le lui demandez pas. Ne vous imaginez pas que vous allez un jour vous présenter devant Dieu et lui dire, Seigneur, je n'ai pas compris. Je t'ai demandé de l'amour, tu ne me l'as pas donné. Si vous demandez avec foi, vous recevrez. Il y a des choses que Dieu ne vous donnera peut-être pas, mais l'amour, la foi, l'espérance, la consolation, etc., il y a des vertus, Dieu ne peut pas ne pas vous les donner. Alléluia. En tous les cas, que nous ayons cette grâce dans l'Église de nous appliquer. Si vous avez un problème, eh bien, vous l'avez. On ne va pas vous jeter la pierre. Non, au contraire, on va vous aider. Et je crois que dans l'Église, n'hésitez pas à demander, prie pour moi, parce que je veux apprendre à aimer les gens. Est-ce qu'on peut le faire, ça? Vous seriez choqué si à la fin du culte, je vous disais, il faut que j'apprenne, je veux davantage aimer l'Église. Est-ce qu'on peut avoir du mal avec l'Église? Est-ce qu'un chrétien peut avoir été blessé dans une Église? Est-ce qu'un chrétien peut avoir été blessé par 3, 4, 5, 6 frères et sœurs de suite d'affilée? Est-ce que ça peut arriver? Donc, on peut avoir du mal à aimer l'Église. Vous savez, tout à l'heure, quand on chantait, je pensais à ce cantique, que j'aime la famille de Dieu. Et bien, moi, je peux vous assurer que pendant 6 mois, ce cantique, quand on ne le chantait pas ici, c'était ailleurs, je ne pouvais pas le chanter. Vous savez, quand vous arrivez à ne plus pouvoir chanter certains cantiques, que j'aime la... Quand je dis, non, Seigneur, je ne peux pas chanter ça. Tellement j'avais été blessé par des frères et sœurs. Mais après, Seigneur, donne-moi de l'amour. Je ne me suis pas senti jugé. Ma femme ne m'a pas enfoncé. Elle m'a aidé. On a prié ensemble. Et moi, je crois qu'on a un Dieu qui répond. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Il y a une gradation dans cette démarche. Et c'est Jésus qui dit. Et moi, je vous dis, demandez. Alors, mes frères et sœurs, travaillons cet aspect. Soyons de vrais disciples. Vous n'êtes pas peinés de voir des chrétiens qui sont des hypocrites? Non? Et si vous en êtes un, eh bien, repentez-vous. Repentez-vous. Dites oui, je dis des mots grossiers de temps en temps. Eh bien, je vais me repentir. Vous croyez que Dieu vous aidera? Oui? Il nous aidera. Ce n'est pas possible qu'il ne nous aide pas. Si vous ne le croyez pas, c'est que vous ne le connaissez pas. Le Seigneur est un Dieu qui nous aide. On continuera plus tard. Hein, cette étude sur le disciple, il y a beaucoup de textes où Jésus en parle et ça nous aidera. Ça nous aidera à faire des progrès. Il y en a qui veulent faire des progrès ici? Non, mais c'est vrai, on ne veut pas faire des progrès. La dame au fond brune avec des lunettes, vous voulez faire des progrès. Hein. Alors aimez votre mari, madame. On va demander au Seigneur son aide. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Merci pour ta parole, Seigneur. Oui, elle est un bienfait pour nous. C'est comme du lait. C'est un miroir. C'est une épée, c'est une lampe, c'est un feu, Seigneur, qui nous permet de comprendre. Et quand les disciples n'allaient pas bien, combien cela nous touche de voir que tu les as pris auprès de toi. Tu voulais les avoir auprès de toi. Et je sais qu'il en est de même pour nous. Tu désires nous avoir près de toi pour nous réexpliquer ces choses. Nous te remercions, Seigneur, de nous parler. Nous croyons, oui, que ta patience est notre salut. Et nous te demandons de nous aider à être ces disciples accomplis. Nous demandons ton aide, Seigneur, pour répondre à ces exigences. Merci de nous accorder ton amour. Celui qui vient du ciel, celui qui coule du calvaire. Merci de nous aider à aimer tous les gens que nous côtoierons. Que ce soit facile ou que ce soit difficile, nous comptons sur ta grâce, Seigneur. Oui, merci de nous donner le temps qu'il nous reste à passer sur la terre, d'avoir eu la joie d'être de véritables disciples qui glorifieront ton nom. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.